Bonjour chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau Rendez-vous Compte, magazine culturel, social et créatif de proximité, avec cette semaine encore pour thème la solitude, déjà traitée il y a 15 jours, à réécouter en podcast évidemment sur le site de la radio et réalisé avec mes amis chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses en deux mots aussi, Michel, écrivaine et diaporamiste, Gérard, chroniqueur inspiré par son chat Moritz, Marine, artiste freelance qui croque également tous nos invités en studio et même une psychanalyste, Hélène, qui aime boire du Pepsi et dire des inepties. Rendez-vous compte. Mais à force de grandir, avec bonheur bien entendu, notre cercle de chroniqueurs et de chroniqueuses, en deux mots, les 30 minutes d'une émission ne suffisent plus pour que chacun ait la possibilité de traiter le thème choisi chaque mois entre nous selon son point de vue personnel. C'est pourquoi je vais faire équipe aujourd'hui avec deux autres membres de notre cercle, Victoria, étudiante à la plume victorieuse, qui nous a rejoint récemment, et Nicolas Martin, peintre et critique d'art, qui nous propose, comme chaque mois, une entrée sur le thème à travers l'analyse incroyablement pertinente d'un des tableaux figurant dans l'une des grandes expositions en cours à Paris, en l'occurrence celle que la Fondation Louis Vuitton propose jusqu'au 2 mars 2026 aux œuvres de Gerhard Richter. Alors comment Nicolas va-t-il traiter le thème de la solitude à travers ce tableau? Eh bien, on écoute ensemble sa chronique intitulée « Arguments ».
Il y a des tableaux qu'on regarde comme on ouvrirait une boîte de souvenirs, avec prudence. Chez Gerhard Richter, il faut même un peu de courage, parce qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on va trouver, ou ce qui va manquer. 1965. Il peint Uncle Rudy. Sourire radieux aux lèvres, un jeune homme, Rudolf Schoenfelder, se tient debout, devant un muret. À l'arrière-plan, un immeuble indistinct suggère un décor urbain. Gerhard Richter peint ce tableau d'après une photographie de famille, a priori banale, en noir et blanc. Banale ? Pas tant que cela. Le jeune homme, encore adolescent, porte l'uniforme de la Wehrmacht. Il trouvera la mort au front dès les premiers jours de la guerre. Richter utilise pour ce travail un épiscope, un projecteur d'image sur toile. Mais au-delà du procédé technique, c'est la mémoire elle-même qui semble vaciller. Sur la toile, dans un mouvement horizontal monochrome, la silhouette tremble. Les contours s'effacent, estompés à l'aide de coton ou d'une brosse. Le sujet se dissout, le visage se brouille. Tout se passe comme si la mémoire hésitait, comme si elle refusait de fixer ce qu'elle ne peut ni effacer, ni dire. Richter peint ce qu'il ne peut plus dire, ou plutôt, ce qu'il ne faut plus dire. Peut-être est-ce cela la première forme de solitude, celle d'un peintre face à une image qu'il ne reconnaît plus, celle d'un neveu face à un oncle que la mémoire a rendu indicible et qui tente de retenir un souvenir avant qu'il ne sombre dans le néant. Devant Uncle Rudy, on cherche des repères, un visage, une époque, une émotion. Mais tout glisse. Les hommes passent, le temps s'efface, seuls les tableaux demeurent. Le noir se dilue dans le gris dans le doute dans l'oubli. Richter peint ses parents et sa sœur avec une infinie tendresse. Et nous voilà, nous aussi seuls, devant le flou, devant ces destins auxquels on pourrait s'identifier. Un souvenir collectif se dessine, fait de fragments d'existence disparues, qui n'étaient pas les nôtres, mais qui nous ressemble étrangement, terriblement familière. Oui, il nous manque ce quelque chose, cette sensation étrange, un peu comme lorsqu'on regarde une vieille photo de classe. On se souvient du décor, pas des prénoms. On reconnaît les visages, mais on ne sait plus à qui appartenaient ces sourires. Et Richter, lui, choisit de peindre ces moments-là. Le flottement du souvenir, ce point précis où la mémoire devient vapeur, où, comme il le dit lui-même, les éléments s'interpénètrent. Là où tout s'efface, il cherche encore, dans la brume, la lumière du vrai. Certains ont écrit de Richter qu'il peignait l'histoire, c'est vrai, mais pas celle d'Emmanuel. Il peint l'histoire intime, celle qui se brouille, qui déchire et qui fait mal, celle qu'on n'a jamais vraiment su raconter. Et il le fait avec une distance qui n'est pas froideur, mais pudeur. Sans colère ni pathos, mais en posant des questions silencieuses. Comment élucider la nature humaine ? Comment saisir ce que nous sommes quand tout en nous résiste à la clarté ? Et surtout, que faire de ce que l'on ne comprend plus ? Et puis, il y a un autre mystère, une autre forme de solitude, plus sournoise, celle de l'artiste face à la tâche, face à son œuvre. Richter l'a souvent dit, il ne peint pas pour expliquer, il peint pour voir. Mais voir lorsque tout devient flou, ce n'est pas si simple. Alors, il s'obstine. C'est peut-être ça le drame et la tendresse de Richter, peindre et repeindre encore et encore des souvenirs qui se diluent, sachant très bien qu'ils finiront par s'effacer quand même. Un peu comme les motifs que les enfants dessinent dans le sable et que les vagues, invariablement, renvoient à l'écume. Une lutte magnifique, perdue d'avance. Une solitude obstinée, presque héroïque. Et puis, il y a nous, devant la toile, seuls, à notre tour, à chercher ce qu'il reste de ce jeune homme, de cet oncle inconnu, de cette époque si lointaine déjà, que l'histoire avec un grand H, cette fois, a fait sienne. On ne trouve pas grand-chose, mais on ressent, et c'est suffisant. La solitude, finalement, ce n'est pas le vide. C'est un moment suspendu, où tout ce que l'on voit nous échappe, et où l'on continue pourtant à regarder. Richter n'a pas seulement peint Onkel Rudy, il a peint la distance entre le souvenir et sa trace, entre le passé et la main qui tremble, entre lui et nous. Quel objet étrange qu'un tableau, ce lien tangible entre deux temps et deux espaces. La solitude de l'œuvre s'expose dans toute sa beauté d'objet transtemporel, qui traverse les époques en s'offrant à la compréhension unique de chacune d'entre elles. La peinture, elle, est un objet fini, et pourtant elle résiste à la mort, tandis que nous, êtres mouvants, glissons sans cesse vers notre disparition. La solitude de l'œuvre est un peu la nôtre. Alors, on sort de l'exposition. Il pleut un peu dehors, tout est gris, le monde ressemble à un tableau de Richter, et, sans trop savoir pourquoi, on se sent seul. Mais pas triste, non, juste vivant. Parce que tant qu'il y a du flou, c'est qu'il reste encore quelque chose à voir et dont on peut se souvenir. À bientôt, dans Argument.
Merci Nicolas pour cette chronique qui, une nouvelle fois à partir d'un seul tableau, nous prouve que l'art dit l'être humain dans son ensemble. Tu as raison Nicolas, Richter comme Proust peint en effet l'histoire intime, celle qu'on n'a jamais vraiment su raconter, la distance entre le souvenir et sa trace. Les œuvres de Gerhard Richter s'exposent à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 2 mars 2026.
IDFM 98FM.
Nicolas, tu terminais ta chronique par cette constatation et sans trop savoir pourquoi on se sent seul. Mais pas triste, non, juste vivant. Surtout finalement, comme le chantait Léo Ferré, si la solitude, eh bien, ça n'existe pas. Une chanson qui date de 1971 est tirée des premières pages d'un roman abandonné par la suite de Léo Ferré.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude. Thank you. la solitude.
Nicolas nous disait, la solitude finalement, ce n'est pas le vide, c'est ce moment suspendu où tout ce qu'on voit nous échappe et où l'on continue pourtant à regarder. Le monde ressemble à un tableau de Richter. Pour cette même raison, le monde ressemble aussi à ce sublime sonnet de Charles Baudelaire, à une passante, dans lequel le poète, fasciné par la fugitive beauté d'une femme inconnue, éprouve une immense sensation de solitude qui l'isole heureusement, mais quelques secondes seulement, de la rue assourdissante qui, autour de lui, hurlait. Coup de foudre solitaire et éphémère, qui marque à jamais le cœur et l'âme, comme chacun de nous a pu en faire l'expérience, et que met en voix si justement Serge Reggiani.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
La solitude, ça, ça prend. La solitude, ça, ça prend. C'est pour une femme qui me ment, pour un ami qui vous vend. La solitude, combien de fois je suis parti seul au milieu de la nuit. Combien de fois j'ai tendu les mains pour dire à quelqu'un, je t'aime, à toi je tiens. Mais je sais bien que personne n'écoute. Oui, je sais bien que personne n'écoute. La solitude, ça prend. La solitude, ça prend. C'est pour une femme qui vous ment, pour le chagrin d'un enfant. La solitude, c'est comme la peur. On vit avec, mais on en meurt. La solitude, je connais ceux qui veulent.
IDFM 98FM.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique qui a pour thème ce mois-ci la solitude. Et nous avons le plaisir de retrouver Victoria, étudiante en sciences de l'éducation, pour sa deuxième contribution. Hélas, Victoria, tu nous fais part d'une mauvaise nouvelle.
Eh oui, triste information, triste nouvelle. Toutes les études montrent qu'on est de plus en plus seul. Vous savez quels sont les deux pays les plus timides ? L'Allemagne et le Japon. Quels sont les points communs entre ces deux pays ? Ce sont deux pays développés qui ont tous deux la réputation d'être très civilisés. Là-bas, tout le monde traverse au feu vert et au feu rouge, même s'il n'y a pas du tout de voiture. On reste bien sagement sur le trottoir. Les deux pays sont très organisés, ce sont les bons élèves. Au Maroc et aux Seychelles, deux pays où j'ai voyagé, deux pays beaucoup plus pauvres qui ont une réputation nettement moins bonne. Là-bas, on peut dire que les gens ne sont pas du tout timides. Tout le monde se parle. Bon, du coup, vous l'aurez compris, plus un pays est dit civilisé, plus les gens sont disciplinés, plus les gens sont, entre guillemets, programmés d'une certaine manière. Il y a un système fort et bien établi, une manière de faire bien précise et on suit les règles. Un point, c'est tout. En Allemagne, on achète ses habits à des grandes entreprises, à des grandes marques. Les prix sont ce qu'ils sont. Impossible de négocier au Maroc. Il y a beaucoup moins de grandes surfaces au souk. Chaque commerçant fait ce qu'il veut, donc on négocie, c'est la norme.
Alors ça, Victoria, c'est une réalité qu'il est facile de constater en effet quand on se rend dans les pays concernés, mais quel rapport avec la solitude ?
En fait, plus un pays se développe, plus les gens se sont isolés. On devient riche matériellement et pauvre socialement. Toutes les vieilles institutions qui permettaient à l'époque de ne pas être seul sont mises à mal. On ne va plus à la messe le dimanche, il y a beaucoup moins de fêtes traditionnelles, les familles se divisent de plus en plus. Et paradoxalement, le fait de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement a contribué à connaître de moins en moins de monde. Avant, on était limité à son village. On y connaissait tout le monde, naturellement. Maintenant, pourquoi s'amuser à aller connaître tout en Galibin, ou qui est le lieu où on habite ? Comment surtout connaître tout Paris, qui est généralement le lieu où on travaille ? Bref, trop de choix tue le choix, trop de monde tue le monde.
Et il paraît que les jeunes aussi se sentent seuls.
Oui, les jeunes aussi, on se sent seuls. Quel étudiant n'a pas perdu tous ses potes de lycée ? Ça arrive très souvent, malheureusement. Bah oui, en même temps, comment garder le lien et se voir régulièrement quand il y en a un qui est parti en école de médecine à Paris et l'autre en école de commerce en Normandie, par exemple ? Vous savez, j'ai appris en classe préparatoire, grâce à Marx, que le premier lien social, c'est la famille, puis c'est le travail. C'est précisément quand on ne cherche pas à rencontrer des gens qu'on rencontre des gens, et ça se fait naturellement dans ces deux domaines. On ne se souvient jamais du moment où on est devenu ami avec nos amis d'école et de boulot. Ça s'est fait naturellement à force de se voir, à force de devoir coopérer. C'est de là où naît généralement l'amitié la plus saine. Et ce que dit Marx me permet de soulever un point où une bonne partie des jeunes de mon âge ne vont sûrement pas être d'accord avec moi. On ne peut pas se faire de vrais amis sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est certes un bon moyen de parler à des gens, mais ça ne reste qu'un moyen de parler à des gens. Ça ne remplacera jamais la vraie vie. On ne connaît pas vraiment une personne quand on n'a pas vu ses mimiques, sa gestuelle, sa manière d'être au quotidien. Et pourtant, combien de mes amis m'ont parlé de leur, entre guillemets, amis virtuels, parfois décrits comme leurs meilleurs amis. Le pire, c'est pour les relations amoureuses, les fameuses relations à distance.
Tiens, d'ailleurs, c'est pas un oxymore, ça, de parler de relations à distance.
Ah oui, pour moi, c'est un oxymore, pour moi, de parler de relations à distance. Je trouve qu'on a trop banalisé ça, en tout cas, c'est ce que j'observe chez les jeunes de mon âge, alors que ça devrait être exceptionnel et temporaire. Mais malheureusement, j'entends beaucoup parler de ça aujourd'hui. Après, dans un monde où tout le monde se sent de plus en plus seul et isolé, finalement, c'est pas plus mal que les gens se parlent sur Internet. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer de voir des gens en vrai, se détacher des écrans, aller faire du sport, trouver une passion. En bref, vivre pleinement le reste de sa vie reste le meilleur moyen de ne pas être seul.
Voilà, merci beaucoup Victoria pour cette leçon de vie finalement positive. Se détacher des écrans, aller faire du sport, se trouver une passion reste le meilleur moyen pour ne pas être seul. Eh bien, pour en témoigner, je recevrai justement dans un prochain numéro de Rendez-vous Compte, Jeanne, jeune sportive de haut niveau en aviron, qui nous racontera l'investissement physique et mental, la volonté inflexible et la nécessaire résilience pour atteindre ce niveau national et n'être jamais seul, même si on se retrouve souvent face à soi-même dans les épreuves. Et puis, rassure-toi Victoria, ici à IDFM Radio de Proximité, on n'est jamais seul. On te retrouve avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle chronique. Rendez-vous compte.
Merci beaucoup pour l'invitation.
T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide.
La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac. L'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi, viens du débat fond, des quartiers neufs, bref, au fond, tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais...
Les jeunes aussi se sentent seuls, disais-tu, Victoria. Ils le disent, ils l'écrivent, dans des cris du cœur parfois douloureux, conformément à ce vers de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. On écoute quelques lycéens qui nous ont envoyé leurs enregistrements.
J'ai pour seul ami la solitude, qui est omniprésente et qui détient une oppression constante sur moi depuis l'âge de mes 12 ans. Je ne sais pas trop comment cela se fait. Quand son silence se fait entendre, quand seule elle est à mes côtés depuis toujours, je suis seule. Comme enfant, tout s'est envolé. Comme dans un mauvais rêve. Comme si je l'avais mérité. Comme si une figure étrangère était venue peu à peu se placer entre moi et le monde. Quand je me rappelais que là, j'étais heureuse. Mon cœur en pleurait et se serrait peu à peu. Quand j'y repensais, là, je pleurais encore et encore. Mes larmes coulaient. Plus d'une a coulé de mes yeux trempés, comme aujourd'hui. Je suis triste, mais pleine d'espoir. Les autres personnes qui me jugent, me dévisagent, sans me connaître, se demandent pourquoi la tristesse se lit sur mon visage alors que je ne suis qu'une enfant.
Je me demandais si j'étais fait pour ce monde, quand on me parlait d'amitié. Perdu comme une aiguille dans une botte de foin. J'ai aucun ami qui puisse être là quand j'en ai besoin. Pour réussir, il me faudrait un cercle d'amis proches. Cependant, c'était la seule chose qui me manquait. Si malgré tout, la solitude m'envahissait, je ressentais une profonde peine au fond de moi.
Je n'ai pas d'amis qui ont des amis et qui ont pour but d'aimer quelqu'un jusqu'à la fin de leur jour. Je ne sais trop comment cela se fait. Quand on me parle de moi, quand on me regarde sans trop comprendre qui je suis, comme enfant, on me prenait pour un fou, comme j'étais juste un solitaire, comme les sentiments je ne ressens point, comme je ne savais plus quoi faire ici. Quand je me suis dit, là je ne suis plus heureux, mon cœur a bondi. Quand j'ai ajouté, pourquoi continuer de vivre ? Mes larmes coulaient. Plus d'un parmi nous les hommes se sentent comme moi aujourd'hui, dépressifs et insociables. Les étrangers qui me visitent admirent mon regard vide de sentiments et mon âme qui sort peu à peu de mon corps. Ils ne se doutent pas que dans quelques heures, je mettrai fin à mes jours de peine, car demain sera un beau jour.
J'ai pour seul ami ma solitude qui me tient compagnie et qui comble mes jours et mes nuits. Je ne sais trop comment j'en suis arrivée là. Quand j'étais accompagnée, quand ils me parlaient, ils me racontaient comme ils étaient heureux d'être à mes côtés, comme nous étions soudés, comme notre relation était fusionnelle.
Quand ils disaient « Là, nous sommes heureux avec toi », mon cœur frémissait. Quand ils rétorquaient « Là, nous sommes malheureux avec toi », mon monde s'effondrait. Plus d'un parmi le groupe sont partis, comme moi. Je pars aujourd'hui, seul et plein d'ambition.
IDFM, 98FM.
Et quant à toi, Victoria, je te dédicace, ainsi qu'à tous les jeunes qui voyagent en solitaire dans leur vie, cette belle chanson de Gérard Manset qui date de 1975.
Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer.
IDFM, 98FM.
On se retrouve sur IDFM à l'écoute de ce deuxième rendez-vous compte consacré à la solitude. En forte progression en France, selon les enquêtes des instituts spécialisés. Et j'en connais un qui se sent seul également. C'est ce marin amoureux qui rêve de prendre dans ses filets une jolie sirène, mais, eh bien, la suite, c'est Louane, jeune lycéenne, qui, une fois encore, met si justement en voix ce beau texte d'Estelle, notre étoile filante, qui nous renvoie de temps en temps un de ces rayons de soleil mélancoliques dont elle a le secret.
Droit, sérieux, ils restaient sur le qui-vive. Fiers, ils yeutaient les alentours. Ils la voyaient sortir de l'eau, nue, ou simplement. Un fin tissu sur sa peau laisserait apparaître ses formes idylliques. Elle serait telle qu'il l'avait toujours imaginée. Elle aurait un regard pointé vers lui seul. Elle aurait la peau qui étincelle et ses cheveux ruisselleraient d'or liquide. Son odeur irait vers lui, iodée, fraîcheur des abysses de l'océan. Quelques crustacés et des algues marines seraient emmêlés sur elle. Capitaine de son navire, trop amoureux pour la laisser avec un autre, il accosterait, prêt à la harponner. Un son velouté sortirait de sa douce gorge et viendrait chatouiller ses oreilles. Il s'arracherait de son navire, l'enlacerait de ses bras robustes et l'emmènerait au fin fond de sa cabine. Hélas, hélas, il devait revenir là où son corps l'avait laissé. Sur cette plage où des enfants criaient leur impatience, où les filles avaient leur propre capitaine, où les moussaillons avaient déjà trouvé leur sirène. Sur cette plage, il attendait sa belle inconnue qui ne viendrait pas. Malgré ses beaux cheveux qu'il avait si bien coiffés, il devait être le seul à les avoir ainsi, malgré ses lunettes qui dissimulaient certainement un regard des plus séduisants, il devait se rendre à l'évidence, repartir. Remonter l'ancre. Ce n'était qu'un songe, enfoui en mer, celui d'un capitaine solitaire à la recherche de sa nymphe.
Merci Estelle pour la triste mais si délicate histoire de ce capitaine amoureux resté en rade, en cale sèche, devant sa belle sirène qui a pris le large sans lui. Et merci Louane pour ton intelligence du texte et son interprétation si sensible. Rendez-vous compte. Ainsi se termine notre deuxième rendez-vous compte spécial chroniqueur et chroniqueuse en deux mots. Merci Nicolas, Nicolas Martin, peintre et chroniqueur d'art, pour tes analyses lumineuses sur le tableau Onkel Rudy de Gerhard Richter, dont les toiles sont exposées, je vous le rappelle, à la Fondation Vuitton jusqu'au 2 mars prochain. Merci à Victoria, étudiante à l'écoute de sa génération, autant pour elle que pour nous. Merci encore à Estelle et Louane, les deux jeunes complices en littérature. Et merci à ces jeunes lycéens qui nous ont envoyé également leurs enregistrements. Voilà, c'était Didier. Alors, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même heure, même adresse, sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Et avant ça, je vous retrouve dimanche matin, dans la matinale de midi, pour ma chronique Nec plus Ultra, qui revisite avec vous ces expressions issus de la mythologie grecque ou de la langue latine. À bientôt.